La première.
Podcast. Un jour dans l'histoire. Caroline Veit.
Nous sommes en l'an 1962 avant notre ère. Le décor est celui de l'Égypte ancienne. C'est l'heure du dîner, la nuit est venue. Fatigué, le pharaon Amenemhat I s'est étendu sur son lit. Il commence à s'endormir quand les armes destinées à sa protection se retournent contre lui. Le souverain tente de se défendre, mais seul, il est vaincu. Voilà ce que rapporte de ce tragique événement le comte de Sinoué, l'un des plus célèbres textes égyptiens. Le fils du roi, Sésostris, est loin. Il apprendra la nouvelle à son retour et c'est dans cette atmosphère de complot qu'il succédera à son père. Le 19 décembre dernier, Laurent de Haussay recevait David Laurent, chercheur associé à l'Institut français d'archéologie orientale.
En 1386 avant Jésus-Christ, la civilisation égyptienne fête déjà 2000 ans d'une histoire qui aura vu défiler quelques 86 pharaons.
Un jour dans l'histoire.
Et pour évoquer l'assassinat des pharaons, avec nous aujourd'hui David Laurent. Bonjour David Laurent.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'Institut français d'archéologie orientale, l'IFAO, et collaborateur scientifique à l'ULB. Vous avez écrit une thèse autour de cette problématique, de cette thématique de l'assassinat des pharaons. Alors conspirer contre Pharaon, parvenir à intenter à sa vie est une chose rare dans l'histoire de l'Égypte ancienne. On a des chiffres sur ces événements?
Alors sur à peu près 26 siècles de dynastie égyptienne, on a deux cas véritablement attestés, puis un troisième plus douteux. Un premier cas à la fin de l'Ancien Empire, au début de la 6e dynastie, un complot de harem dont on sait très très peu de choses. Et puis le cas qui va nous occuper aujourd'hui, ouais, l'assassinat d'Amenemhat Ier, on est aux alentours de 1950 avant Jésus-Christ. Et puis un autre cas très bien documenté aussi, avec d'autres types de sources, sous le règne de Ramsès III, à la fin de son règne. Il est assassiné aussi dans un complot de harem. Et on est là aux alentours de 1153 avant notre ère.
Alors on va voir aussi avec vous qu'il faut évidemment beaucoup se méfier des interprétations qu'on peut faire des textes, alors notamment sur la datation. Moi j'avais la date de 1962, vous nous dites 1950, c'est très flou, enfin très difficile d'avoir une date exacte bien sûr.
Alors c'est en effet très difficile, d'une part parce que lorsque chaque souverain monte sur le trône, on recommence un compute d'années à partir de l'unité. 1, 2, 3. Et puis tout simplement parce qu'on n'a pas de réelle compatibilité entre le calendrier pharaonique puis le calendrier grégorien ou julien ou romain. Donc c'est quelque chose de relativement difficile. On peut éventuellement s'aider de phénomènes héliaques, notamment l'observation du lever d'une certaine étoile à l'horizon. Mais là encore, faire le lien entre une observation astronomique et le calage sur un calendrier absolu, ça reste très compliqué.
Alors nous allons nous intéresser donc à la 12e dynastie avec les règnes des pharaons Amenemhat Ier et Sésostris Ier. On a déjà évoqué Sésostris ici il y a quelques temps. Alors Amenemhat règne donc aux alentours de 1950, un petit peu avant, puisque c'est cette année-là qu'il mourrait. Premier roi donc de cette 12e dynastie, qui est une des plus prestigieuses, dit-on, de l'histoire de l'Égypte. Pourquoi ?
Assurément, c'est une des plus prestigieuses dynasties de l'Égypte ancienne, même si elle reste très mal connue du grand public. C'est une période où l'on a ce qu'on appelle une forme de classicisme dans les arts, dans la littérature, qui va très durablement inspirer l'époque plus connue du Nouvel Empire, avec les pharaons Amenhotep, les pharaons Ramsès. C'est une période qui revient aussi à un certain nombre de standards architecturaux, comme les pyramides pour les complexes funéraires des rois. C'est donc une période très florissante au niveau des arts, des pratiques artistiques. Et puis, d'un point de vue économique, c'est aussi une période qui va étendre l'influence de l'Égypte sur une partie du couloir syro-palestinien, de très nombreux contacts avec la côte levantine, et puis aussi étendre une puissance à la fois économique et politique sur la Nubie, toute la zone concernée actuellement par le lac Nasser, et puis une certaine influence jusque dans l'actuel Soudan, le nord du Soudan.
Alors, il n'est pas un pharaon de la 11e dynastie, on l'a dit, mais à quoi sont dues ces ruptures de dynastie? Pourquoi pense-t-on de l'une à l'autre?
Alors, l'essentiel des dynamiques de changement de dynastie est dû à des changements de famille. Ce qui identifie fondamentalement une dynastie, c'est avant tout le lieu où s'exerce le pouvoir et la continuité dans une famille. Et ici, avec Amenemhat Ier, on a une double rupture. D'une part, très clairement, Amenemhat Ier n'est pas le successeur de Mentouhotep IV, en termes de famille, ça n'est pas son fils. Et par ailleurs, le lieu où il va exercer son pouvoir, à partir de la, disons, première décennie de son règne, est différent de la ville de Thèbes. Il va déménager sa capitale dans le nord de l'Égypte pour se rapprocher de l'antique capitale Memphis.
Alors, il y a deux documents importants qui permettent de comprendre l'histoire d'Amenemhat et de son fils Sésostris. Ce sont donc l'enseignement d'Amenemhat et le texte, hein, la biographie ou le conte de Sinoué. Qu'est-ce que c'est que ces documents ?
Alors, ce sont des documents qui sont très connus, parce qu'on en possède de très nombreuses copies, complètes ou partielles, sur différents supports, les papyri, mais aussi les ostracas, donc soit des tessons de poterie, soit des éclats de calcaire, et ce, à peu près à toutes les époques, à partir de leur création, donc dans le courant du Moyen Empire, et puis aussi dans le courant du Nouvel Empire. Donc, on a une documentation sur à peu près 1000 ans, donc des textes bien connus et qui font l'objet de recopiages réguliers par les scribes, qui font partie de l'apprentissage des scribes, donc des classique. Ça, c'est pour les sources. Maintenant, le problème, ce sont des sources qui sont avant tout littéraires, disons, en tout cas qui ont un caractère littéraire dans leur écrit, mais qui ne sont pas des écrits historiographiques au sens de l'histoire et de la critique des sources. Donc, il faut être prudent, il y a une manipulation, une éventuelle distorsion entre des faits historiques latents dans le propos, et puis la manière dont ces faits sont rendus et travestis pour faire passer un message.
Ce ne sont pas des paroles dictées par le pharaon dans ces textes, notamment Sinoué. Le pharaon parle à la première personne.
Oui, très clairement, ce sont des documents qui font passer l'auteur principal comme étant vivant, alors que dans le cadre de l'enseignement d'Amenemhat Ier, c'est un écrit posthume, c'est Amenemhat Ier qui s'exprime depuis l'au-delà pour son fils. Et pareil pour Sinoué, on a les traces de son enterrement et des conditions de son enterrement, et pourtant il présente l'ensemble du texte comme étant de son vivant. Donc on a une rupture avec la logique chronologique.
L'assassinat des pharaons dans l'Égypte ancienne, nous sommes avec David Laurent.
L'Égypte antique. Saga captivante d'une civilisation qui s'étend sur 18 dynasties ou lignées royales. L'Égypte des premiers pharaons vénère tout un panthéon de dieux animaux, en même temps qu'elle entretient une croyance complexe en la vie après la mort.
Un jour dans l'histoire.
Extrait d'un documentaire, Les grands pharaons d'Amenhotep III à Séti Ier. Nous, on s'intéresse avec David Laurent à Amenemhat Ier, qui est donc un de ces pharaons assassinés, deux ou trois sur ces 26 siècles.
26 siècles presque, oui.
Alors, on l'a dit, il est le fondateur de la 12e dynastie, c'est un ancien vizir. Est-ce que c'est une chose courante dans l'Égypte ancienne qu'un vizir devienne pharaon ?
Non, pas tellement, et il s'agit là avant tout de l'hypothèse la plus logique. On a un vizir qui s'appelle Amenemhat sous le règne de Mentouhotep IV, le prédécesseur d'Amenemhat Ier, et la logique veut que cet Amenemhat vizir soit en quelque sorte le futur Amenemhat roi. Mais on n'a pas de preuve directe de que l'un est égal à l'autre.
On sait peu de choses de sa famille. Il a un fils, Sésostris, qui deviendra Sésostris Ier, à part ça.
À part ça, on ne sait pas grand-chose. On sait que son propre père s'appelait Sésostris, donc il y a une alternance de père en petit-fils. Et sinon, pas grand-chose. On ne connaît même pas les frères et sœurs de Sésostris.
Alors, c'est une période de prospérité pour l'Égypte, vous le disiez à David Laurent. C'est aussi, au niveau religieux, un basculement dans l'histoire égyptienne.
C'est un relatif basculement, dans la mesure où l'ancien empire, jusque-là, mettait en évidence avant tout le caractère solaire de la royauté, et on va voir émerger un nouveau souverain parmi les dieux, qui est le dieu Amon-Ré, avec un syncrétisme qui récupère la divinité solaire Ré de l'ancien empire. Et Sésostris Ier, le successeur d'Amenemhat Ier, va construire le premier très grand temple à Karnak, et qui sera respecté jusque dans le courant du Nouvel Empire.
Et Amenemhat, ce nom a à voir avec Amon, c'est ça ?
Oui, très clairement. En fait, le nom Amenemhat, c'est Amon est en tête.
Alors, quels sont les ennemis extérieurs de l'Égypte ?
Alors, à l'époque, les ennemis de l'Égypte sont quelques tribus nomades dans le désert libyen, donc à l'ouest de la vallée du Nil, et essentiellement des populations situées en basse et haute Nubie, des populations de type africaine, soudanaise, appartenant de près ou de loin au royaume de Kouch, établi justement à hauteur de la 3e-4e cataracte, donc bien plus au sud de l'Égypte.
Est-ce qu'on peut envisager que des ennemis extérieurs auraient pu tremper dans le complot ?
Alors, a priori, oui, mais la documentation que l'on possède, malgré les mises en garde qu'il faut faire quant à leur interprétation, laisse plutôt penser à un entourage proche du roi comme étant les comploteurs.
Alors, justement, au niveau intérieur, de qui doit se méfier Amenemhat ?
Alors, d'après ce qu'il laisse entendre à son fils, il devrait se méfier de tout le monde. Mmh. C'est ce que dit le texte de l'enseignement, qu'il faut se méfier même de son frère, ne connaître aucun ami, ça ne sert à rien. Et même les personnes que l'on aide et que l'on héberge au sein du palais sont susceptibles de se retourner contre le roi. Donc Pharaon doit se méfier de tout le monde. Alors là, en l'occurrence, les personnes les plus probables comme étant les comploteurs, même si on ne possède absolument pas leur nom dans la documentation, c'est probablement des gens issus d'une branche secondaire de la famille qui voulait placer un prince non héritier sur le trône à la place de Sésostris Ier.
Alors, on reviendra à ces comploteurs tout à l'heure. On avance pas à pas. Quels sont les rapports entre Amenemhat et son fils Sésostris ?
Eh bien, on sait très peu de choses sur la jeunesse de Sésostris avant qu'il ne soit roi, et l'essentiel de la documentation a été créé après son avènement dans le but de légitimer son accession au trône. Donc on a un problème de fiabilité des sources. Mmh. Ce que Sésostris fait dire de lui est évidemment très très orienté, même sur sa jeunesse, où il dit qu'il est destiné, choisi par les dieux, mais c'est évidemment une vision a posteriori.
Est-ce qu'il a une implication dans la gestion déjà, enfin, lorsque son père est pharaon, dans les affaires de l'Égypte, Sésostris ?
Alors, la biographie de Sinoé, en tout cas le document qu'on considère comme tel, dit que généralement Sésostris menait la politique de son père à l'extérieur, tandis que Amenemhat Ier restait au palais et gérait plutôt les affaires intérieures de l'Égypte.
C'est courant, une co-gérance du
royaume ? Une co-gérance, une implication du fils héritier présomptif aux activités de l'État n'est sans doute pas, disons, surprenante. Par contre, c'est vrai que c'est une période où l'on considère qu'il y a généralement une association de fait et orientée prévue entre un souverain et son héritier sous la forme de co-régence, où tous les deux peuvent avoir un pouvoir identique à la tête du pays. Et ce principe de co-régence est par contre lui battu en brèche par des études plus récentes.
C'est un long règne, Amenemhat.
C'est presque 30 ans, oui, c'est très très long pour l'Égypte ancienne.
Alors la contestation de la succession, c'était chose courante, sans aller jusqu'à l'assassinat, on l'a dit, ça c'est rare, mais est-ce qu'il était courant qu'on conteste une succession ?
A priori, non, dans la mesure où Pharaon est quand même perçu comme étant une forme de dieu sur Terre. Et c'est sûr que les pharaons du Moyen-Empire étaient tout sauf des personnages extrêmement rigolos et on n'y approchait pas comme cela. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, la documentation que l'on possède est essentiellement une documentation issue du palais lui-même et il est fort peu probable que le palais parle des troubles contre Pharaon.
Ouais. Et d'ailleurs, dans les textes, les documents que l'on a retrouvés, c'est assez amusant de voir Sésostris. Enfin, on lui fait dire qu'au fond, c'est tellement une évidence pour lui d'être choisi parce qu'il est choisi des dieux directement.
Oui, c'est ça, en fait. Avant même qu'il ne sorte des jambes de sa mère, des cuisses de sa mère, dit le texte, il était déjà destiné à saisir le pays, à s'emparer du palais. Donc il y a une véritable prédestination du souverain, même tout petit, même lorsqu'il est adolescent, il est considéré comme étant le dépositaire du pouvoir royal.
Et cette vision des choses, est-ce qu'elle traverse les classes sociales ? Je veux dire, c'est une évidence aussi pour l'homme de la rue, il y a un choix divin dans...
Là, on touche du doigt une des très grandes difficultés qui est de savoir comment le peuple, quel que soit son niveau de stratification, s'il est tout en bas de l'échelle ou tout en haut, comment le peuple perçoit l'idéologie du souverain. On sait ce que pense le souverain de lui-même ou ce qu'il fait faire penser, mais on ne sait pas du tout si les gens acceptent ce qui est émis comme discours.
Amenemhat va être assassiné, on l'a dit. On va maintenant se focaliser sur cet événement tragique avec David Laurent.
Nous sommes en 1153 avant Jésus-Christ, dans l'Égypte des pharaons. Ramsès III regagne son palais à Thèbes pour une grande fête. Mais ces festivités ont une face cachée. Ce qui va se produire changera le cours de l'histoire. Ramsès III est lui-même un écheveau de contradictions. C'est un seigneur de la guerre qui a su repousser les tentatives d'invasion dans son royaume. Pourtant, il ne soupçonnera jamais que ses ennemis les plus à craindre sont tapis dans son entourage immédiat.
Un jour dans l'histoire.
Ramsès III, donc l'un de ces pharaons assassinés. On aura peut-être tout à l'heure quelques secondes pour évoquer ce cas avec vous, David Laurent. Là, on va zoomer sur Amenemhat Ier. Alors, qu'est-ce qu'on sait de son assassinat ? On sait qu'il était isolé dans son palais à ce moment-là. Son fils se trouve où ?
Alors, son fils est précisément en mission loin du palais pour combattre des populations situées dans le désert libyen à l'ouest du delta. Donc, Pharaon est seul. Et par ailleurs, c'est une période où le vizir lui-même est en train de guerroyer en Nubie avec l'essentiel des troupes de l'Égypte. Donc il est véritablement tout seul, avec seulement sa garde rapprochée.
Alors, il n'est pas certain, selon certaines sources, que le pharaon était le seul visé ?
Oui, Amenemhat Ier a déjà 30 ans de règne lorsqu'il se fait assassiner. S'il est bien le vizir de Montotep IV, il a déjà une carrière relativement importante avant de devenir roi. Et en fait, c'est peut-être même plus Sésostris Ier qui est visé par cet attentat, en tout cas sa place sur le trône, puisque la vie elle-même d'Amenemhat Ier.
Est-ce que le vizir, par exemple, pourrait être faire partie des comploteurs?
Alors, c'est peu probable dans la mesure où le vizir, qui s'appelle Antefoker, continue à exercer de manière extrêmement importante sous le règne de Sésostris Ier jusqu'à l'an 24. On voit mal Sésostris Ier conserver un des principaux protagonistes de l'assassinat de son père pendant 24 ans à côté de lui.
Alors on l'a dit, vraisemblablement une branche parallèle de la famille de Sésostris. Une femme, on dit, une femme aurait un rôle important dans cette assassinat.
C'est ce qu'Amenemhat laisse entendre en s'interrogeant de manière rhétorique. Est-ce que l'on a permis que des femmes engagent des mercenaires? Est-ce que l'on engage les futurs rebelles au sein du palais? Donc très clairement, Amenemhat Ier pose dans ce texte qui est très nettement orienté des questions à savoir s'il est normal en fait que l'ennemi, plutôt que d'être à la périphérie de l'Égypte, vienne du cœur même du palais.
Le pharaon qui avait plusieurs épouses.
Alors manifestement oui, mais ça reste des choses qui sont très mal documentées. On sait qu'il existe une institution qui s'appelle le harem royal, très loin de la vision des orientalistes du 19e siècle occidental, mais c'est donc une institution qui accueille un certain nombre de femmes qui peuvent avoir des enfants plus ou moins légitimes avec le souverain.
Et donc on imagine que chacune a envie pour son fils de la meilleure destinée.
Ce serait sans doute très naturel.
Alors c'est ce harem quand même, un mot, c'est effectivement pas ce harem que l'on imagine avec des très jolies filles au service d'un chef, d'un roi. Ici c'est quoi ce harem?
Ce harem est très mal documenté en fait pour cette époque-là, et à part quelques titres de responsables du harem, en fait on en connaît très peu de choses, et même sa consistance architecturale n'est pas du tout connue. On n'a pas de traces de ce harem dans l'archéologie.
Alors qu'est-ce qu'on sait de la façon dont s'est déroulé cet assassinat?